Bonjour à tous et bienvenue sur le site de l'église protestante de Bligny. J'espère que vous allez tous bien malgré nos restrictions. Je vous invite à la prière. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie qu'il y a 2000 ans, en cette nuit dite de Noël, tu nous as voulu réunis avec toi. Et pour mieux activer la relation, tu nous as envoyé ton propre Fils. Que ce culte que nous voulons te rendre soit à ta gloire, pour ce que tu as fait, mais surtout pour ce que tu es. Renouvelle notre esprit de Noël pour que nous puissions voir ce petit enfant Jésus comme le Sauveur venu dans le monde. Et qu'aujourd'hui, nous puissions encore dire que Jésus-Christ est Seigneur. En son nom, nous t'avons prié. Amen. Merci de partager avec nous ce culte qui aurait dû être notre culte de Noël dans notre lieu de culte 54 rue de la Station à Bligny. Mais notre invité surprise, qui n'était d'ailleurs pas invité ni désiré, s'est incrusté. Et si même nous avons l'autorisation de nous réunir à 15 personnes maximum, il doit être alloué à chaque participant un espace de 10 mètres carrés. Notre chapelle étant petite, nous pourrions tout au plus être 3. Alors, fêter Noël ensemble, c'est difficile.
ensemble.
Noël ensemble.
Ensemble, un mot qui ne sonne plus très bien à nos oreilles. Pourtant, le chant que nous venons d'écouter a réuni lors de sa création environ 80 artistes et fait partie d'un album sorti en 2000 pour la recherche contre le sida. Vous allez penser, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un culte de Noël ? Justement, c'est souvent dans les grandes catastrophes que la solidarité s'applique et que tombent les barrières. Dans notre pandémie, quelle solidarité d'ensemble allons-nous pouvoir exercer ? Nous ne pourrons sans doute pas fêter Noël ensemble, mais nous pouvons prier, chanter, louer, parce que c'est notre Dieu qui nous a réunis.
Poème de Noël de Théophile Gautier. Le ciel est noir, la terre est blanche, cloche carillonnée gaiement. Jésus est né, la Vierge penche sur lui son visage charmant. Pas de courtine festonnée pour préserver l'enfant du froid, rien que les toiles d'araignée qui pendent des poutres du toit. Il tremble sur la paille fraîche, ce cher petit enfant Jésus. Et pour l'échauffer dans sa crèche, l'âne et le bœuf soufflent dessus. La neige au chaume coud ses franges, mais sur le toit s'ouvre le ciel. Et, tout en blanc, le cœur des anges chante au berger « Noël, Noël ».
Depuis plus de 4000 ans.
Je passe maintenant la parole à Daniel pour nous apporter le message que Dieu lui a mis sur le cœur. Pas de place pour Jésus.
Chers amis, avant de vous apporter le message, je vous propose d'écouter un chant de Noël revisité par les chanteurs de l'Église Nouvelle Vie. L'Église Nouvelle Vie vous offre ce merveilleux classique de Noël revisité, qu'il puisse être une source de joie et de réconfort en cette saison de fête qui débute, le titre étant « Joie dans le monde ».
La gloire de sa justice.
Oui, nous désirons, chers amis, que la joie vous accompagne en cette période de fête. Nous y voilà, nous y arrivons. Après avoir vécu une année très spéciale et très dure, nous arrivons à Noël. Oui, Noël, mais que représente Noël pour nos contemporains et pour nous-mêmes? Pour la plupart des gens, Noël est l'occasion de se retrouver en famille, face à un bon repas. L'image de Noël, c'est aussi les cadeaux que nous nous échangeons. Noël, c'est l'image du Père Noël qui nous vient à l'esprit. La neige et son manteau blanc, quoique il y ait bien des années que nous n'avons plus de Noël blanc. Et bien sûr, toute la féerie qui accompagne cette fête, les décorations, les guirlandes, les illuminations et la télévision qui nous programme chaque année des films mielleux, films de Noël bien entendu, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et dans tout cela, y a-t-il de la place pour celui que nous devons fêter? Mais que fêtons-nous? Mais la naissance du sauveur de l'humanité, pardi Jésus. Ah oui, on l'oubliait celui-là. Depuis belle lurette, il y a longtemps que la plupart des citoyens de nos pays appelés chrétiens ne vont plus à la messe de minuit avant de dévorer à belles dents la pauvre dinde sacrifiée pour l'occasion. Non, il n'y a pas de place pour Jésus en ce jour de Noël. Cela gâcherait la fête de mêler la religion avec nos réjouissances, disons, païennes. Noël sans Jésus, mais cela n'est pas nouveau. Jésus n'a jamais été fort accepté, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dès l'annonce de sa naissance, et bien avant qu'il naisse, il n'y avait pas de place pour lui, car il est plutôt dérangeant. Nous lirons quelques passages de la Bible qui nous le prouvent. Le premier passage que je vais lire avec vous se trouve dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Nous lirons les versets 1 à 6. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Nous voyons ici un jeune couple avec une femme enceinte, et pas enceinte de n'importe qui, elle porte en elle le Messie. Nous imaginons leur fatigue et celle de Marie, dans son état fort avancé, avoir accompli plus ou moins 140 km de route dans des conditions difficiles. Cela leur a pris plusieurs jours, bien entendu. Être sur le point de s'accoucher et ne pas trouver de place dans les auberges. Pas question d'accoucher dans une maternité, il n'y en avait pas à cette époque-là, vous le savez bien. Pas de place pour Jésus avant sa naissance. Personne ne reconnaît en Marie la mère du Sauveur, du Messie. Et la pauvre femme est obligée d'accoucher dans une étable. Voilà ta place, Jésus, une mangeoire dans une étable. N'est-ce pas déshonorant pour un roi, et principalement pour le roi du monde? Et n'est-ce pas là, dans une étable, où nous plaçons Jésus encore de nos jours? Pas de place pour Jésus, juste une place dans une mangeoire, c'est bien assez. Reste là bien sagement, ne nous dérange pas. Je désire vous lire le texte de sa naissance et des événements qui ont suivi, vous prouvant que Jésus, même bébé, faisait peur et dérangeait les hommes, ne voulant pas de sa présence dans ce monde. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Commençons au verset 1er. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Et cela continue. Donc l'hostilité envers le Sauveur ne fait que commencer. Jésus vient de naître et les mages venus d'Orient s'enquièrent afin de savoir où est né le roi des Juifs. Cela revient aux oreilles du roi Hérode. Il fait mine de vouloir adorer le nouveau roi, craignant pour son trône et ne sachant pas où se trouve le roi des Juifs, car les mages se sont joués de lui. Il fera donc procéder à un massacre d'enfants, espérant que Jésus soit parmi les victimes. Le massacre d'innocents, ainsi nommé ce bain de sang ignoble, procédé par un roi cruel. Non, rien n'a changé dans ce monde. Combien de massacres d'innocents n'avons-nous pas vécu et ne vivons-nous pas encore? Pourquoi autant de massacres de nos jours? Simplement l'homme ayant rejeté le Sauveur Jésus et n'ayant pas de place pour lui, pouvant ainsi changer son cœur et ses sentiments, préfère vivre dans la haine et la violence au lieu de vivre dans l'amour. Revenons à notre sujet du jour. Dieu prend soin de son fils Jésus. Ne permettant pas qu'on lui fasse du mal, les parents s'enfuient en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Progressivement, Jésus grandit et devient un homme. Il commence alors son ministère à l'âge de 30 ans. Et bien entendu, il rencontre beaucoup d'opposition. Pas de place dans la vie publique pour cet illuminé, ce prétendant fils de Dieu. Malgré les miracles qu'il opère et sa grande éloquence, rien n'y fait. Les religieux de cette époque ne lui laissent aucune place auprès d'eux. Ce personnage est dérangeant, néfaste. N'éprouvons-nous pas ce même sentiment quand nous parlons à nos contemporains de l'amour de Jésus? Nous recevons de leur part beaucoup de rejets et de moqueries. Et non, rien de nouveau sous le soleil concernant Jésus. Dès le début de son ministère jusqu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup de place dans la vie des hommes pour lui, le Sauveur du monde. Nous lisons dans l'Évangile l'accueil que les hommes ont réservé à Jésus, appelé ici la lumière. Nous trouvons cela dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qu'elle a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et Dieu est un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Le monde de l'époque refuse de voir en Jésus la lumière apportant le salut et la guérison. Et malgré cette opposition, Jésus, contre vents et marées, continuait son ministère, faisant du bien autour de lui, confondant ceux qui s'opposaient à lui. Jésus prononçait des paroles fortes et puissantes, prouvant par cela sa divinité. Et cela ne provenait pas de notre imagination, ni d'un conte de fées, ni d'un conte de Noël. Jésus est bien fils de Dieu, voulant prendre la place qui lui revient dans nos vies. Jésus dira de lui en Jean chapitre 7, à partir du verset 28. Jésus enseignait dans le temple, il s'écriait alors, « Vous me connaissez ?» Et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui et celui qui m'a envoyé. Bien sûr, les gens de l'époque connaissaient Jésus et ses origines, fils du charpentier. Mais ce sont ses origines terrestres. Mais il faut regarder Jésus avec les yeux spirituels. Que refusaient de voir ces juifs et ces religieux de l'époque? Ils ne voulaient pas reconnaître en lui le Fils de Dieu, le Messie incarné. Et à l'heure actuelle, dans ce monde, le retient de Jésus, un petit enfant couché dans une crèche, un bon philosophe, enseignant une nouvelle façon de vivre dans un monde où tout pourrait être beau et gentil. Mais de là à lui faire de la place dans notre vie, il y a un pas que beaucoup ne veulent pas franchir. Mais soyons positifs. Il y a des personnes qui ont laissé une place à Jésus, qui lui ont offert leur adoration. À sa naissance, si les grands et les religieux de son époque l'ont profondément ignoré, d'autres sont venus, ont cru, ont adoré. De ce nombre sont les bergers qui ont eu le privilège d'avoir une chorale d'anges pour eux seuls. Les bergers croient la parole prononcée par les anges concernant le Sauveur. Et ils se déplacent jusqu'à Bethléem. Et ils voient le miracle de l'enfant Dieu. Ils s'en retournent adorant. Ces simples bergers font une place à ce Jésus Sauveur. Nous trouvons ce récit dans Luc chapitre 2, et au verset 20, il nous est dit « Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Et comme je vous le disais au début de cette méditation, il y a aussi les mages venant de loin à la rencontre de ce Sauveur. Ils viennent d'un pays étranger, démontrant ainsi que la naissance de ce Sauveur concernait non seulement le peuple juif, mais bien l'humanité entière. Faire une place à Jésus, quelques-uns la lui ont faite pendant son ministère terrestre. Bien sûr, il y avait les disciples que Jésus avait choisis, quelques femmes fidèles donatrices assistant Jésus de leurs biens, quelques personnes qui furent guéries par Jésus le suivirent comme Zachée, ayant fait une rencontre extraordinaire, Joseph d'Arimathée, Nicodème et bien d'autres. Mais le nombre était limité car faire place à Jésus signifiait se déclarer partisan de ce personnage, bouleversant ainsi toutes les traditions religieuses, se mettre ainsi en danger et être exclu de la synagogue. Encore à ce jour, faire place à Jésus, se déclarer chrétien convaincu, pratiquant, c'est vivre à contre-courant, en marge de notre société et être pointé du doigt. Vivre en tant que chrétien, déclarer au monde que nous sommes devenus enfants de Dieu, est une aberration pour beaucoup. Avoir un peu de religiosité et de croyance passe encore. Mais déclarer au monde que nous avons laissé à Jésus toute la place dans notre vie est insupportable pour beaucoup. Et bien entendu, je ne vais pas m'étendre sur la mort de Jésus. Jésus a été crucifié. Les hommes de l'époque pensaient en être débarrassés à tout jamais. Mais ils se trompaient. C'était le commencement d'une ère nouvelle. Nous aurons l'occasion de nous étendre un peu plus sur le message de la mort de Jésus en période de Pâques. Pour l'instant, continuons à penser à Noël. C'est pour cela aussi que nous voyons l'Église naissante. Cette Église naissante a subi une persécution sans pareille, parce que les gens ne supportaient pas que l'on s'attache à Jésus et l'on abandonne les traditions. Le grand apôtre Paul, avant de pouvoir dire ces paroles extraordinaires, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi », fut un des plus grands persécuteurs de l'Église de son temps, ne supportant pas ces chrétiens ayant tout abandonné de leur tradition pour faire toute la place dans leur vie à ce Jésus de Nazareth. Mais Dieu arrêta cet homme cruel sur la route pour en faire plus tard un instrument de salut. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 3. Comme Paul était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Et ce jour-là, Saul de Tarse, qui deviendra le grand apôtre Paul, comprit qu'il n'était qu'un religieux, n'ayant aucune espérance, suivant des rites et des traditions. Il a reçu la révélation de Dieu que Christ était le sauveur du monde, apportant le salut, et se mit à servir celui qu'il persécutait. Ensuite, cet homme posera les grandes fondations de la foi chrétienne dans ses épîtres, Jésus ayant donc finalement pris toute la place dans la vie de l'apôtre Paul. Vous allez peut-être me dire, mais c'est bien un culte de Noël étrange que tu nous apportes. Voyez-vous, chers amis chrétiens ou non chrétiens, vivre une fête de Noël en pensant uniquement à ce qu'elle représente pour beaucoup, c'est-à-dire une simple fête familiale, avec à la clé une table bien garnie, un sapin scintillant de mille feux, des cadeaux, etc., c'est passer à côté du véritable Noël. Non pas que nous ne devons pas fêter dignement Noël en famille, là n'est pas mon propos, surtout en cette année où nous ne pouvons pas rassembler autour de nous l'ensemble de notre famille. Mais fêter Noël sans la compagnie de celui que nous devrions fêter réellement, c'est-à-dire le Jésus Sauveur, c'est passer à côté de la signification du vrai Noël. Voulons-nous donner enfin à ce Jésus la place qui lui revient, c'est-à-dire la première? Voici le message de Noël, écoutez. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que voilà un beau souper de Noël! Il est temps d'ajouter un couvert, chers amis, pour ce réveillon de Noël 2020. Confiné, oui, mais avec un invité surprise pour certains. Jésus à notre table, qui rompt le pain avec nous, comme sur le chemin d'Emmaüs. Jésus s'habitant chez nous, et nos yeux spirituels s'ouvrant, oui, Jésus. Il y a une place pour toi à notre table. La question est posée, avons-nous une place dans notre auberge? Sommes-nous prêts à laisser Jésus guider toute notre vie à partir de ce Noël? Là est toute la question à chacun de nous à y répondre. Prions. Seigneur, nous arrivons à Noël, anniversaire de ta naissance. Et pourtant, combien de nos contemporains semblent oublier que tu es venu sauver l'humanité parce que tu nous aimais. Seigneur, tu as tout créé par le son de ta voix. Tu as voulu aussi nous sauver et tu as décidé de nous envoyer Jésus parce que tu voulais nous réconcilier avec le Père, notre Dieu. Pardonne-nous, car bien souvent nous ne te donnons pas toute la place dans nos vies. Seigneur, aide-nous à nous remettre en question et à mieux t'aimer. Bénis-nous en ce Noël particulier. Puissions-nous te donner toute la place dans nos vies et dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Je vous propose d'écouter maintenant le groupe Glorious, avec leur nouveau chant qui s'intitule « Comme un souffle ».
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Oh, là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Chers amis, notre culte de Noël s'achève. Je désire, au nom de la communauté protestante de Blegny, vous souhaiter un joyeux Noël, malgré les circonstances difficiles que nous vivons. Que le Dieu de paix et d'amour vous accorde sa bénédiction, qu'il vous protège de tout mal et de tout danger. Soyez bénis en Jésus notre Sauveur. À bientôt. Au revoir. Restez prudents.